Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le privilège de traiter ce matin le sujet Tel Hatzor et Tel Dan, témoin de la crédibilité de la Bible. Voilà, Hatzor, qui autrefois a été appelé en arabe Tel El-Keda, se trouve au nord d'Israël, en Galilée, plusieurs kilomètres au nord du lac de Génézareth. Eh bien, seulement en 1875, Leslie Porter a, pour la première fois, fait une identification avec cet endroit, de cet endroit avec Hatzor. Et en 1928, John Garstang, il a fait quelques petites fouilles. Mais plus tard, 1955 à 58, 68 à 69, c'était surtout Yigael Yadin qui a travaillé énormément à Tel Hatzor. D'ailleurs, Yigael Yadin, c'était le général dans la guerre de 48-49 en Israël, lorsque les pays arabes essayaient de détruire complètement Israël après la fondation de l'État. Donc, Yigael Yadin a fait des fouilles importantes et plus tard, dès 1990, c'était Amnon Bentor qui a fait des fouilles importantes qui ont commencé mais qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois, lorsque je viens de nouveau à Hatzor, voilà de nouveau des progrès et des nouvelles choses qu'on a trouvées. Eh bien, on peut dire Hatzor confirme l'histoire biblique du troisième millénaire, donc après le déluge, jusqu'à l'an 732 avant Jésus-Christ. Nous allons voir, selon l'ordre des couches qu'on a retrouvées, d'abord l'époque cananéenne, donc l'époque des Cananéens, ensuite l'époque de Josué, ensuite l'époque des juges, l'époque de Salomon, l'époque du royaume des 10 tribus, et ensuite nous allons voir les traces de la déportation des 10 tribus en Assyrie, justement en 732 avant Jésus-Christ. Mais il faut dire, Hatzor était dans le passé un mystère durant des millénaires, on peut dire. Voilà, c'était à peu près ça, ce qu'on a vu avant les fouilles. Et maintenant, nous savons en détail ce qui s'est caché sous ces collines. D'abord, quelques remarques concernant la chronologie biblique. Le lien fondamental entre l'histoire extra-biblique ou séculaire et l'histoire biblique est l'an de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens sous Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? On peut prendre cette date comme une base importante parce que nous avons sur des tablettes cunéiformes des Babyloniens plusieurs observations de position des planètes pour établir avec exactitude cette année. Et la Bible date cet événement bien dans la vie de Nebuchadnezzar. C'est pour ça que cette date est clairement établie. Eh bien, puisque la Bible contient un système chronologique dès le début de la Bible jusqu'à la fin de l'Ancien Testament et même avec un pont qui va jusqu'au Nouveau Testament. Alors, on peut calculer les dates suivantes. Je commence par Abraham, qui est venu à Canaan en 2036 avant Jésus-Christ. Donc, Abraham, le père du peuple d'Israël. est venu au pays de Canaan. 2036. Et voilà, l'Épître aux Galates nous dit, 430 ans plus tard, Dieu a établi son alliance avec Israël au Sinaï. Par cela, nous pouvons établir la date de l'Exode comme 1606 avant Jésus-Christ. Ensuite, la conquête du pays, 40 ans plus tard, après le voyage du peuple d'Israël, de 40 ans dans le désert. Ensuite, l'époque des juges, qui selon Actes 13 a duré 450 ans. Eh bien, l'époque des juges, c'est 1546 jusqu'à 1096 avant Jésus-Christ. Et depuis cette date-là, vous pouvez calculer les 40 ans de Saül, les 40 ans de David, les 40 ans de Saül, de Salomon, et ensuite vous avez le schisme. Israël s'est divisé en deux nations, Israël les 10 tribus au nord, et Juda les 2 tribus au sud avec la ville capitale de Jérusalem. Donc le schisme en 976 avant Jésus-Christ, et d'ailleurs selon Ézéchiel 4, l'époque du schisme jusqu'à la destruction de Jérusalem devrait être exactement le nombre d'années qui finit à 586. Donc c'est un système chronologique qui joue ensemble. D'ailleurs, on peut l'obtenir à travers mon site internet ou aussi par email info@rogerlivet.ch, et on peut le recevoir en allemand et en français. Et vous allez voir, c'est un système chronologique qui est tellement convaincant parce que on n'a pas dû corriger un seul chiffre dans la Bible. Donc c'est un système absolument fermé en soi. Et malheureusement, dans le passé, dans la chronologie biblique, on a commis plusieurs erreurs. Par exemple, vous pouvez lire dans la littérature, l'Exode d'Égypte avait lieu 1250 avant Jésus-Christ, environ. Mais pourquoi on a pensé ça? Eh bien, dans la Bible, Exode 1, il est écrit que Israël, comme peuple en esclavage, a dû bâtir la ville de Ramsès et de Pithom. Alors on s'est dit au 19e siècle, Ramsès, oui mais c'est le même nom comme des pharaons. Alors quel pharaon était le pharaon de l'Exode? Eh bien, celui qui a bâti le plus, Ramsès II. Donc, l'Exode d'Israël, 1250 avant Jésus-Christ. Et depuis, ça a été retenu dans la littérature scientifique. Et voilà, aujourd'hui, il y a bien des scientifiques qui disent, vous voyez, la Bible, elle ne correspond pas du tout avec la réalité de l'archéologie. Mais pourquoi? Eh bien, l'Exode à 1250, Jéricho, la première ville conquise par Josué, c'était à l'époque pas une ville. À cette époque, il n'y avait pas de mur autour de Jéricho. Donc, vous voyez, c'est un mythe. Et voilà, en plus, on ne voit pas les traces de la conquête par Josué. Oui, mais si on prend la chronologie donnée par la Bible, alors on trouve cette date ultérieure qui correspond exactement avec Jéricho et ses murs. Et vous allez voir, ça correspond exactement avec Hatzor, avec Tel Dan, etc. Donc là, ça joue parfaitement. Donc on a attribué à la Bible une fausse chronologie pour après dire, voilà, la Bible n'a pas raison. Eh bien, nous allons corriger cela. Voilà, Tel Hatzor, vu depuis l'avion. Le terme tel est hébreu et aussi arabe et veut dire colline, tertre. Mais, n'est-ce pas, ce n'est pas une colline naturelle. Telle, c'est toujours une colline formée par la superposition des ruines de civilisations successives. C'est très typique au Proche-Orient. Les hommes, au début, se sont mis à une certaine place pour bâtir un village. Et lorsque ce village a été détruit, on a rebâti exactement sur le même endroit. Lorsque ça a été nouveau détruit, sur le même emplacement, on a continué à rebâtir, etc. Et c'est pour ça, au Proche-Orient, il y a tant de tels. Et si vous avez un peu l'œil formé, vous pouvez facilement découvrir dans la nature, ah, ça c'est pas naturel. Ce n'est pas une colline naturelle, c'est un tel. Il faudrait faire du travail archéologique pour trouver les jours d'ancienneté. Eh bien, à Tel Hatzor, on trouve 21 niveaux. Donc, par superposition de ruines. Et vous comprenez, il est fondamental, lorsqu'on fait des fouilles, de bien distinguer les couches successives, parce que le plus bas, on arrive, le plus ancien, c'est. Voilà. Tel Hatzor était la plus grande ville de l'époque cananéenne. Elle a couvert un espace de 80 hectares, quand on compte la ville haute et la ville basse ensemble. À l'époque de la conquête du pays par les Israélites, à Tel Hatzor, il y avait à peu près 15 000, même à 20 000 habitants. Et vous voyez, Josué 11:10 insiste sur le fait que c'était la capitale du royaume de Canaan. Vous voyez, la société des Cananéens était organisée de la façon suivante. Une ville avec des petites villes et villages autour, et dans cette grande ville, il y avait un roi. Et une autre grande ville avec les villages autour, de nouveau un roi. Donc les Cananéens étaient composés de beaucoup de royaumes différents. Mais la tête des royaumes en Galilée, c'était Hatzor. Vous voyez ici la ville haute et la ville basse. On a particulièrement travaillé sur la ville haute. Je lis maintenant la conquête de Hatzor en Josué 11. Après l'Exode, après le voyage au désert, Israël a conquis Jéricho, Bethel, etc. et d'autres villes, et finalement aussi Hatzor. Et il arriva que lorsque Jabin, en hébreu, Yavin, roi de Hatzor, entendit cela, il envoya vers Jobab, roi de Madan, et vers le roi de Shimron, et vers le roi d'Akshaf, et vers les rois qui étaient au nord dans la montagne et dans la plaine au midi de Kinneret, et dans le pays plat et sur les hauteurs de Dor à l'occident, vers le Cananéen à l'orient et à l'occident, et vers l'Amoréen, et vers le Hétien, et vers le Phérésien, et vers le Jébusien, dans la montagne, et vers le Hévien au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpé. Et ils sortirent, eux et toutes leurs armées, avec eux un peuple nombreux, en multitude comme le sable qui est sur le bord de la mer, avec des chevaux et des chars en très grand nombre. Et tous ces rois-là se donnèrent rendez-vous et vinrent et campèrent ensemble vers les eaux de Merom pour faire la guerre contre Israël. Et l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, environ en ce temps-ci, je les livrerai tout tués devant Israël. » Verset 7. Et Josué et tout le peuple de guerre avec lui vint contre eux à l'improviste près des eaux de Merom, et ils tombèrent sur eux. Et l'Éternel les livra en la main d'Israël, et ils les frappèrent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, et jusqu'à Misrephoth-Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpé vers le Levant. Et ils les frappèrent jusqu'à ne pas leur laisser un réchappé. Verset 10. Et en ce temps-là, Josué rebroussa chemin et prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée, car Hatzor était auparavant la capitale de tous ses royaumes. Et ils frappèrent par le tranchant de l'épée toutes les armes qui s'y trouvaient, les détruisant entièrement. Il n'y resta rien de ce qui respirait, et il brûla Hatzor par le feu. Verset 12. Et Josué prit toutes les villes de ses rois, et tous leurs rois, et les frappa par le tranchant de l'épée. Il les détruisit entièrement, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé. Seulement, Israël ne brûla aucune des villes qui étaient demeurées tranquilles sur leurs collines. En hébreu, leur tel. Donc, colline de civilisation. Excepté Hatzor seul que Josué brûla. Voilà, une indication importante pour les archéologues. Lorsqu'on recherche les traces de la conquête du pays de Canaan par Israël, il ne faut pas penser qu'on va trouver des traces de feu partout. C'était bien limité, les villes qui étaient brûlées par le feu. Et voilà, ici nous sommes sur la haute ville de Hatzor, et vous voyez le palais retrouvé de l'époque qu'on appelle milieu de l'époque cananéenne, 18e au 16e siècle. Et voilà, au 16e siècle, ce palais a été détruit et brûlé. Vous voyez les traces du feu. Eh bien, 16e siècle, ça correspond exactement avec cette chronologie stricte de la Bible. Conquête du pays à partir de 1566 avant Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, nous avons ici le palais de Jabin, décrit en Josué 11. Mais quand on suit une fausse chronologie, on ne réalise pas que c'est ça l'histoire biblique que nous voyons devant nous. Voilà une autre vue de ce palais. Maintenant, il faut que j'explique. Israël a donc conquis finalement tout le pays de Canaan, mais dans la suite, Israël a abandonné le Dieu de la Bible, l'Éternel, le Dieu de la Bible. Et je lis en Juges 2, verset 12, « Et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils marchèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui étaient autour d'eux. Et se prosternèrent devant eux, et ils provoquèrent à colère l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et Ashtaroth. » C'est pour ça que Dieu a laissé tomber Israël dans les mains de leurs ennemis. Et voilà, en Juges 4, nous lisons, « Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Or, Ehud était mort. » Et l'Éternel les vendit en la main de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Et le chef de son armée était Sisera, et celui-ci habitait à Rochette des Nations. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, car il avait 900 chars de fer. Et il opprima fortement les fils d'Israël pendant 20 ans. Et Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Et elle habitait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les fils d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Voilà, longtemps après les événements de sous Josué, nous lisons que les Israélites étaient opprimés par le roi de Hatzor, qui s'appelle d'ailleurs aussi Jabin. D'ailleurs, on a trouvé une tablette cunéiforme à Hatzor. Et sur ce reste de texte, on lit d'un Jabin qui était roi à Hatzor. Il n'est pas tout à fait clair avec quelle personne on doit identifier cette personne mentionnée sur cette tablette. Il est possible que c'était même un Jabin avant le Jabin de Josué 11. Mais cela serait intéressant parce que cela montre que le nom de Jabin était bien liée au lieu de Hatzor. N'est-ce pas comme dans l'histoire, il y avait des rois, des noms de rois qui étaient préférés et puis qu'on retrouve plusieurs fois. C'est la même chose, évidemment, à Hatzor. Mais nous pouvons déduire de Juges 4 que Israël a détruit Hatzor à l'époque de Josué, mais il a laissé la ville. Ils ne sont pas allés habiter, mais les Cananéens ont continué de nouveau à vivre à Hatzor. C'est pour ça qu'on retrouve le Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor beaucoup plus tard, à l'époque des Juges. Je lis Juges 4, 23. « Et en ce jour-là, Dieu abattit Jabin, roi de Canaan, devant les fils d'Israël. Et la main des fils d'Israël avançait toujours et pesait durement sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il eût retranché Jabin, roi de Canaan. » Eh bien, selon la Bible, la mort de Jabin était vers 1380 avant Jésus-Christ. Donc Israël, dans un processus, était devenu toujours plus fort contre Hatzor, et finalement, il n'est pas dit qu'ils ont détruit la ville, mais ils ont finalement détruit le roi. Donc ils étaient forts dans un processus. Et effectivement, à Hatzor, nous trouvons finalement les traces de la destruction du palais de ce Jabin par un grand incendie au XIIIe siècle. Vous voyez ici l'endroit du palais du milieu de l'époque cananéenne que nous venons de visiter, et maintenant le palais juste à côté de la fin de l'époque cananéenne, c'est-à-dire 16e au 13e siècle. Donc l'archéologie est vraiment en accord avec la parole de Dieu. Israël a seulement détruit Hatzor, mais les Cananéens ont rebâti Hatzor. Seulement au XIIIe siècle, cette époque prenait fin. Alors, vous voyez ici le palais restitué de la fin de l'époque cananéenne, XVIe au XIIIe siècle. Vous voyez l'entrée, vous voyez ces colonnes des deux côtés avec des bases en pierre et la colonne en bois. Et derrière, la salle du trône. Et ce qui est typique pour les Cananéens, c'est le mélange de bois, briques d'argile et pierre. Ici, pierre de basalte, comme vous voyez. Ça, c'est la technique pour bâtir qui est typique pour les Cananéens. Vous voyez aussi ici ce mélange de bois et briques d'argile. Maintenant, nous sommes dans la salle du trône, nous regardons depuis cette salle vers l'extérieur. Vous voyez les colonnes des deux côtés. On a réalisé que le fond de cette salle était en bois. Bien sûr, on n'a retrouvé que des restes, mais on a restitué un peu. C'est pour ça. Elle est recouverte d'un plancher. Voilà les chambres à côté de la salle du trône. Et voyez de nouveau ce mélange de basalte, bois de cèdre et briques d'argile. La vue depuis l'arrière. Et voilà encore une fois la vue vers l'entrée depuis l'intérieur. Et vous voyez juste devant l'entrée, un haut lieu, en hébreu bama. Un haut lieu, c'est un endroit où les Cananéens ont fait des sacrifices et ont brûlé de l'encens pour leur dieu, pour Baal, Asherah, etc. Voilà ce haut lieu. Et j'ai déjà expliqué que Israël, dans la suite, c'est souvent détourné du seul vrai Dieu de la Bible pour adorer des faux dieux des Cananéens. Et c'est pour ça, par exemple, en 2 Rois 17, verset 11, nous lisons des Israélites, « Et ils firent fumer là de l'encens sur tous les hauts lieux. En hébreu, Bama. Pluriel, Bamoth. Comme les nations que l'Éternel avait transportées de devant eux. Et ils firent des choses mauvaises pour provoquer à colère l'Éternel. N'est-ce pas, celui qui lit régulièrement sa Bible, il retrouve toujours de nouveau ce terme « haut lieu ». Mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Ici, vous voyez un haut lieu des Cananéens originel. Et maintenant, nous allons voir la passerelle entre la ville haute et la ville basse qu'on vient de découvrir très récemment à Hatzor. Je vous montre ici où ça se trouve, vous voyez, entre la ville haute et la ville basse, cette passerelle. Et vous voyez les restes de la porte, quand on arrive depuis la ville basse vers la haute ville. Et vous voyez là un haut lieu, juste à gauche du chemin, vous voyez. Et maintenant, je lis dans un autre contexte. 2 Rois 23, verset 8. Et il, il s'agit du roi Josias, démolit les hauts lieux des portes qui étaient à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville. Ce n'est pas le même Josué comme dans le livre de Josué, mais à l'époque de Josias, qui étaient à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et ceux qui étaient à la gauche d'un homme entrant dans la porte de la ville. Voyez là les hauts lieux et typiquement placés vers la porte de la ville et ici, comme en 2 Rois 23, à gauche de l'entrée. Voyez, avec de tels détails, on peut montrer avec quelle exactitude le texte biblique nous raconte l'histoire. Ce n'est pas simplement inventé. C'est vraiment en accord avec les détail de l'histoire. Eh bien, j'ai expliqué, après cette destruction terrible au XIIIe siècle, faite dans la suite de l'époque de Déborah, vers 1250, c'est vraiment la fin de la ville basse. Mais après cette époque, 1250, Israël se trouve sur la ville haute. On ne retrouve plus les Cananéens, mais les traces des Israélites. Je lis en Juges 2, verset 12. Et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils marchèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, et se prosternèrent devant eux. Ils provoquèrent à colère l'Éternel et abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et Ashtaroth. Eh bien, nous allons maintenant voir ce qu'on a trouvé de l'époque du 12e, 11e siècle, selon la chronologie biblique, c'est l'époque des juges. En archéologie, on parle ici de l'époque du fer 1. Eh bien, là, à l'extrémité de la colline, vous voyez, on a trouvé un haut lieu des Israélites de cette époque. Les pierres placées pour à la gloire des faux dieux sont transportées au musée, bien sûr. Mais là, vous voyez encore ce haut lieu des Israélites en rapport avec l'histoire biblique qui dit que Israël a abandonné l'Éternel dans l'époque des juges pour adorer les faux dieux des Cananéens, qu'on a retrouvés ici, ou leur symbole. Maintenant, nous continuons. Nous allons voir la porte de la ville de Hatzor au temps de Salomon. Selon la Bible, 10e siècle. Dans l'archéologie, époque du fer 2. Eh bien, ici, vous voyez depuis l'avion l'endroit de cette porte de la ville de Hatzor. Au Xe siècle, Hatzor, ville israélite, était assez petit comparé à l'époque cananéenne. Il y avait à peu près 1000 à 1500 habitants seulement. Voilà, selon une chronologie stricte, Salomon a régné depuis 1016 à 976 avant Jésus-Christ. Et nous lisons en 1 Roi 9, verset 15. Et c'est ici ce qui concerne la levée que fit le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel. Et sa propre maison est Milo et la muraille de Jérusalem. Et Hatzor et Megiddo et Gezer. Voyez, la Bible nous dit que Salomon était comme bâtisseur actif particulièrement à Jérusalem, mais ensuite aussi à Hatzor, à Megiddo et à Gezer. Et nous allons voir la porte de Salomon de cette époque. Ici, nous sommes devant l'entrée pour aller à la ville. Oui, ce n'est pas simplement une porte, c'est une maison. C'est un bâtiment pour entrer, avec deux tours des deux côtés. Et voilà, la tour à gauche. Ensuite, si vous entrez, il y a trois cellules pour les gardes à gauche et aussi à droite. Et là, devant un vestibule, voilà le passage d'entrée. À l'autre côté, la même chose, la tour, vestibule, et voilà trois cellules avec des gardes. Et ce qui est absolument remarquable, le dessin de cette porte correspond exactement au dessin des portes d'entrée dans le plan d'Ézéchiel pour le futur temple d'Israël au temps du Messie, au temps du millénium, décrit en Ézéchiel 40, versets 6 à 37. C'est exactement ce dessin-là. Et vous savez que Salomon, c'était le bâtisseur du premier temple à Jérusalem. Et il a utilisé donc ce dessin de porte d'entrée aussi à Hatzor, Megiddo et à Gezer. Et cette découverte de cette porte a beaucoup aidé d'ailleurs pour comprendre mieux le plan d'Ézéchiel. Parce qu'il y a là des termes utilisés qui sont un peu difficiles pour comprendre, mais maintenant ils sont illustrés par l'archéologie. Et vous voyez, Yigael Yadin, il a réalisé que c'est là un dessin de Salomon. Alors, puisqu'on a trouvé le même dessin, en plus qu'un endroit, le jour où on a fait des fouilles d'une telle porte, il a dit aux aides, voilà, vous allez maintenant continuer à faire des fouilles ici et vous allez trouver cela et cela. Eh bien, ils ont fait les fouilles, ils ont trouvé exactement comme Yigael Yadin a dit. Mais ils se sont dit, mais il fait de la superstition. Non, pas du tout. Il a réalisé que c'est un dessin de Salomon, et la Bible nous dit, Salomon a bâti à Megiddo, Gezer, Hatzor, donc il faut trouver le même dessin dans tous ces endroits, et c'était correct. Donc vous voyez l'archéologie qui nous aide à comprendre mieux des détails de la prophétie biblique. Ici en plus, vous voyez la mur des casemates aussi, construit par Salomon. Vous voyez, un double mur qui protégeait la ville. Nous continuons et nous allons au temps d'Akab. Israël a été divisé en deux nations, vous savez, après la mort de Salomon. Et Akab était un des grands rois des 10 tribus. Et voilà ce qu'on a trouvé de Hatzor du 9e et 8e siècle, donc toujours époque fer 2. Dans cette époque, la ville haute était une ville de 12 hectares environ. Il y avait une nouvelle enceinte fortifiée et une impressionnante alimentation en eau et des entrepôts. Nous allons voir maintenant le château fort d'Israël. Ici à l'extrémité du tel. Voilà, c'est l'œuvre d'un des rois du royaume des 10 tribus d'Israël. Voilà. Maintenant, un entrepôt public pour mettre l'alimentation pour la ville. Aussi de cette époque-là. Vous voyez une maison privée de l'époque des rois. Ce qui est typique avec une cour intérieure, avec un pressoir à huile. Donc on apprend par cela aussi la vie de tous les jours à l'époque de l'Ancien Testament. Et maintenant, nous allons voir l'alimentation en eau pour temps de guerre. Vous voyez ici sur le plan général, vu depuis l'avion, où ça se trouve. Donc, cette construction est composée de trois parties. Un, d'abord l'accès, ensuite un puits profond, parce que à Cap, ou un autre roi vers cette époque, il a creusé à travers toutes les couches de Hatzor jusqu'au rocher pour retrouver de l'eau. Parce qu'en cas de guerre, on ne pouvait plus sortir pour aller vers le Wadi de Hatzor ou vers les sources en dehors de la ville. Il fallait de l'eau dans la ville. C'est pour ça qu'il a fait ce travail. Et la troisième partie, tout en bas, c'est un tunnel de 25 mètres de longueur. Alors en tout, on descend avec ce puits environ 45 mètres pour trouver l'eau naturelle tout en bas. Voilà, vous voyez, partie 1, partie 2. Et on a mis du plâtre là vers les murs qu'on a creusés des anciennes couches. Donc c'est l'œuvre d'Acap ou d'un roi vers son époque. Vous voyez là les escaliers qui mènent en bas pour chercher de l'eau. Maintenant, nous sommes presque en bas, nous regardons vers le haut. Et maintenant, la troisième partie, nous passons par le tunnel. Et voilà des escaliers qui sont taillés du rocher naturel. Voilà, deux vues. Pour arriver finalement vers l'eau. Mais le niveau d'eau dans le sol a beaucoup changé depuis. C'est pour ça que maintenant vous n'avez plus l'eau. C'est un problème en Israël que ça baisse toujours plus et il y a un grand danger que aussi l'eau de sel de la mer puisse entrer. Et ça serait une catastrophe. Voilà. Maintenant, j'aimerais encore montrer la tour de fortification qui date du 8e siècle, donc de l'époque où les Assyriens finalement sont arrivés pour détruire le royaume des 10 tribus. Donc voilà, une tour qui a essayé de résister à ce grand pouvoir numéro 1 de l'époque, les Assyriens, qui ont conquis tout le Proche-Orient et finalement aussi le royaume des 10 tribus. Nous sommes ici là, sur cette tour. Mais nous lisons en 2 rois 15, 28, « Et il, Pekah, un des rois des 10 tribus, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Au jour de Pekah, le roi d'Israël, Tiglath-Pileser, ou en français on dit aussi Tiglath-Phalassar, roi d'Assyrie vint et prit Ijon, si vous voulez, en hébreu Ijon, et Abel, Beth-Maaka, et Janoak, et Kedesh, et Hatzor. Et Galaad et la Galilée, tout le pays de Naphtali, et en transporta les habitants en Assyrie. Voilà la destruction de Hatsor par Tiglath-Pileser III à l'an 732 avant Jésus-Christ. Et la Bible en parle. Et vous trouvez ici les traces de la destruction par les Assyriens. Le château fort et sa tour. Eh bien, nous avons vu, Hatsor confirme l'époque cananéenne qui commence au troisième millénaire après le déluge jusqu'à 732 avant Jésus-Christ. Nous avons vu donc des traces de l'époque des Cananéens, l'époque de Josué, l'époque des juges, l'époque de Salomon, l'époque du royaume des 10 tribus et ensuite les confirmations de la déportation en Assyrie. Et selon exactement la suite chronologique comme elle est décrite dans la Bible. Voilà, pour finir, encore quelques vues. Et il faut ajouter que Hatsor a été choisi par l'UNESCO parmi les environ 200 tels en Israël pour être donc un site appelé World Heritage Site. Tel Hatsor est choisi avec tel Megiddo et tel Beer Sheva.